Alors, petite révision d'abord. Il y a 15 jours, on a eu une équipe de choc d'Américains. Merci, Alana. Et cette équipe de choc d'Américains nous a dit des choses en tant qu'Église. Alors, c'est, je le répète, pour les gens de l'Église et puis ceux qui sont visiteurs au milieu de nous aujourd'hui, ils prennent aussi parce que ça doit être aussi pour eux. Voilà. Donc, ils nous ont dit beaucoup de choses. Hein, et entre autres, ils nous ont dit que, qu'on était une station de remplissage. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez qu'ils ont dit, c'est-à-dire que les gens viendront de partout, fatigués, lassés, et puis nous, on remplit, ils repartent tout heureux. Et vous vous rappelez qu'il avait aussi montré les vignes, et puis il avait dit qu'il voyait des ouvriers heureux, qu'on remplissait des cuves, enfin voilà. Et puis il avait dit qu'il y a pas de la loche aussi, vous savez, qui coule des montagnes, et puis que ça allait irriguer les plaines beaucoup plus loin. Et voilà, il nous avait dit un petit peu certaines facettes de la destinée de notre église. Et nous, individuellement, collectivement, on est appelés à ça. Station de remplissage. Ça vous va, non ? Station de remplissage ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'état des vignes là derrière, parce que nous, on a des vignes. Hein. Eh bien, l'état des vignes, c'est lamentable. Alors, évidemment, les vignerons, les familles de vignerons, je pense à Patrick, là, pour lui, c'est normal. Mais pour un néophyte, ou même, je dirais, quelqu'un qui vient d'ailleurs, genre quelqu'un qui vient du désert, quelqu'un qui vient du Guatemala, il va dire que ça ne ressemble à rien, ces vignes. Rien. Alors, je l'apporte pour les visuels. Voilà, ça, c'est l'état de nos vignes actuellement. Et on est passé la semaine, il y a une semaine, 15 jours, les ouvriers étaient dedans, ils taillaient. Et ils restaient sur le cep, qui n'a pas beaucoup d'allure. Hein. Qui sait qui pense à décorer un jardin qu'un cep ? C'est pas terrible, un cep. C'est tout tordu, c'est pas très beau. Il y avait un, voire deux sarments dans cet état lamentable. Hein ? Pas beau, hein ? Et puis vous passez, c'est marron, uniformément marron. Ça n'a pas d'allure, il n'y a rien de vert là-dedans, rien. Marron. Parlez-moi d'un joli buisson de houx bien piquant, ça au moins ça a de l'allure. Mais là, rien. Nul. Et Dieu dit souverainement, dans 8 mois, ça va déborder de grappes. Et ces grappes vont faire un vin excellent qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Schlumberger, ils exportent États-Unis, Russie, etc. Et vous dites, Mais... Dans le naturel, il n'y a personne qui... Vous y croyez tous hein, que dans 8 mois, ça va déborder, les cuves vont déborder. Vous y croyez ? Alors pourquoi vous n'y croyez pas pour vous ? Voilà. Je sais que beaucoup d'entre nous se voient dans cet état. Hein ? Mais Dieu dit... Alors, si Dieu dit, comme a dit très justement Fabrice, on fait quoi ? On choisit de croire ce que Dieu dit ou on choisit de croire ce que nous, on pense de nous ? Hein ? Ça, c'est la grande question. Bon, c'était une première métaphore. Deuxième métaphore. Il y a quelques années, des Africains du Sud sont venus. Ils sont venus à l'école, mais bon, école-église, même combat. Hein. Ils sont venus et ils ont dit... Le Seigneur veut déverser sur vous des plénitudes de bénédictions. Plénitudes. De l'huile, de l'or, des finances. Oh, chouette, la comptable. Ah, chouette. La suite. Seulement, le problème, c'est pas Dieu, bien sûr. Le problème, c'est vous. Les Africains du Sud nous ont dit, voilà la dimension, votre dimension actuelle, il y a quelques années. Hein. Alors, je sors. Un coquetier. Il a dit, non, ils ont dit, l'Africain, réellement, vous avez une dimension de coquetier. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais coquetier pour faire station de remplissage de plein de vie, c'est un peu juste comme dimension, vous voyez. C'est franchement petit. Alors, bon, ils sont jolis, nos coquetiers. Hein. Alors, j'ai un coquetier, j'en ai un autre, mais... Noir, ça, c'est un coquetier dépressif. Bon, en tout cas, c'est vraiment petit, vous voyez, petit. Et... Alors, dans le naturel, on dirait c'est foutu. Leur destinée, c'est à vie, pour l'éternité, coquetier. Mais heureusement, avec le Seigneur, ce n'est pas définitif. Alors là, il faudrait des effets spéciaux, vous voyez, pour montrer que Dieu, de ses coquetiers dépressifs, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, je rêve vraiment, je lance une idée comme ça, je rêve de jeunes qui se mettent dans, vous savez, tout ce qui est fabrication d'effets spéciaux, ils nous font des films, effets spéciaux avec vision prophétique. Alors, on verrait... Hein, pas mal. Alors, on verrait les coquetiers qui seraient malaxés par le père, qui grossissent, qui grandissent, vous voyez, qui changent de forme. Alors, peut-être que nous, au bout de plein d'années, plein de ministères, on a eu l'Allemagne, on a eu le Mexique, on a eu les États-Unis, on est peut-être à une dimension supérieure. C'est mieux. Bon, pour irriguer des nations, ce n'est pas encore le top. Bon. On est en chemin. Après, toujours irrigation, les ministères qui viennent, le Saint-Esprit qui malaxe tout ça tous les dimanches. On s'élargit. Ah, c'est mieux, hein? Beaucoup mieux. Là, c'est pas mal. On est des vases de terre, ça vous savez aussi, hein, vases de terre, fragiles et tout ça. Ils sont pas trop fissurés, ceux-là, donc ça va. Bon. Alors, j'ose pas visualiser le Dieu, j'ai osé. Alors, bon, mais il aurait fallu prendre une énorme amphore en or massif, diamant. Donc, vous essayez de transformer la chose que je vais vous montrer, avec votre imagination débordante, surtout les jeunes, en, vous voyez, une énorme amphore, or, argent, pierre précieuse, brillant, la gloire. Voilà. Bon, j'ai trouvé ce que j'ai pu, hein, au premier étage du château. Bon, parce que Dieu, il se donne, hein, donc sans arrêt, tous les dimanches matin, en tout cas, il le fait, il nous remplit. Et ça déborde, il nous remplit. Hein. Voilà, alors ça, on va dire que c'est le père. Argent, rédemption, ça vous va, hein? Rédemption, voilà, argent. Bon. Et puis, donc, ce qu'il veut faire de nous, c'est, on est à son image, obligatoirement, on est à son image. Donc, il va faire de nous des êtres qui soient aussi remplis de lui et qui irriguent les vies. Hein? Alors, ça va faire ça. Pas mal, hein? Voilà, la salle de produire est finie. Ça ressemble, on est à l'image du Père, on est en terre quand même, hein, parce que voilà, on est humain. Et puis, on est appelé à irriguer des vies. Ça vous va comme programme? Bon, le problème, c'est comment passer de, on va dire, de ça à ça. Comment on va y passer? Et là, désolé de vous le dire, il ne s'agit pas d'un petit moment prophétique comme ça, hop, comme on a fait à Strasbourg, changement de manteau, on enlève le vieux, on prend le nouveau. Et non, là, c'est désolant, mais il faut un processus. C'est tout un processus. Et ce processus, ça s'appelle élargissement des concepts. Élargissement. Et là, il faut du temps, il faut un processus, et puis surtout, il faut coopérer avec Dieu. Alors, il y a un homme qui est passé dans le processus, un modèle, quoi. C'est même notre père à tous dans la foi. J'ai nommé Abraham. Ouais. Alors, c'était quoi le processus d'Abraham? On va regarder un peu ça, parce que c'est notre processus à nous. Hein. On est pareil. Eh ben, Abraham, d'abord, c'était un idolâtre, polythéiste, Ur en Chaldée, Irak, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus idolâtre. Première étape, tu quittes. Première étape. On quitte son ambiance, quoi, sa culture, le monde dans lequel on baigne, on quitte. Bon, après, on suit l'esprit, on ne sait pas trop où on va. C'est très inconfortable, ça. Après, il y a eu plein d'étapes. Attends, j'ai noté une étape. Oui. Après, il a dû se séparer d'avec Lot. Alors, Lot, ça pourrait dire les affections légitimes. Les choses qu'on a le droit normalement d'aimer, les choses légitimes qui ont une apparence bonne, mais c'était quand même Lot. Il a dû séparation avec Lot. Ça parle de l'élagage, ça parle de l'émondage. Hein. On coupe. Après, rencontre avec Melchisédek, roi de justice. Tiens, ça vous rappelle pas 2009, révélation de la justice. Révélation. Et puis avant. Avant, il y a eu la victoire sur les rois. Entraînement au combat spirituel, ça on sait faire à Josué. On a beaucoup de droits devant nous. Hein. Libération des captifs. Rencontre avec Melchisédek. Ah, après, révélation de l'Alliance. Chapitre 15, Genèse 15, l'Alliance. Alors l'Alliance, c'est quelque chose. Hein. Vous savez qu'il a confronté beaucoup de ténèbres et de frayeurs, Abraham, quand il a conclu l'Alliance. Il a vu que c'était très précieux au cœur de Dieu. C'est une facette de Dieu énorme, l'Alliance. Mais c'est haï par l'ennemi. S'il y a quelque chose que hait l'ennemi, c'est bien l'Alliance. On le voit avec l'histoire du mariage. Hein. Tout ce qui est alliance, il le hait. Et Abraham a confronté cette haine. Et si vous relisez Genèse 15, il y a cette intimidation, ces frayeurs épaisses, ces ténèbres. Mais il a fait alliance avec Dieu. Et après, alors là, je pense que là, on n'est pas très bon. là, dans le processus, peut-être que tout ça, on l'a déjà passé, plus ou moins. Là, il y a quelque chose de pas... On n'est pas au point, je vais vous dire. Il a fait sortir Abraham dehors, on est dans chapitre 15, verset 5. Il a fait sortir, et qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham ? De regarder quoi ? Le ciel, les étoiles. En fait, il a regardé, il a amené à contempler la création. Et là, à mon avis, là, il y a quelque chose qu'on a à travailler. Contempler le Créateur. Contempler les œuvres de la création. Et il lui a demandé de regarder donc les étoiles. Alors, les étoiles, est-ce qu'un scientifique parmi vous pourrait me dire combien il y en a dans... On a parlé des galaxies, on a chanté les galaxies, il y en a combien ? Alors, bon, je m'inspire, enfin, c'est un scientifique qui a écrit ça. Il y en a beaucoup. Un chiffre ? Pas de chiffre. Des milliards. Alors, les scientifiques disent qu'il y en a 10 puissance 25. Alors, un milliard, c'est combien déjà ? C'est 10 puissance combien, un milliard ? 9. Voilà, on n'y est pas du tout. Hein. Donc, 10 puissance 9, c'est un milliard. Et là, on est des milliards de milliards de milliards. 10 puissance 25. Rien que ça, ça nous élargit, vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose, je crois que le Seigneur nous interpelle. Contemplez ma création. Vous allez être élargi. Donc, première chose, contemplez la création. Et juste après cette contemplation de la création, eh ben, il se révèle, 5, et il le mena dehors, contemple donc le ciel, compte les étoiles, telle sera ta descendance. Et c'est là qu'Abraham fait confiance à Dieu. C'est fou hein, ce que Dieu dit. C'est comme nous avec nos histoires de raisins et de grappes. Hein. C'est un peu fou. Mais le grand mérite d'Abraham, c'est qu'il a cru à cette chose un peu folle. Bon, après, Abraham, il a fait plein de bêtises, comme nous. Hein. Agar, il a laissé sa femme dans le harem de Pharaon, plusieurs fois même. Enfin, il a fait des bêtises comme nous. De ce côté-là, il n'est pas meilleur que nous, ça c'est sûr. Il a mélangé la chair, l'esprit, comme nous. Pareil. Et puis après... Ah, on arrive à Abraham, Genèse 17. Et là, je viens, Genèse 17, il lui dit, il lui change son nom et dit, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi, ta descendance après toi dans toute la génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Est-ce que on a réalisé que cette bénédiction, elle est pour chacun de nous ? Tu deviendras le père d'une foule de nations. Je te rendrai fécond. Je ferai naître de toi des nations. Des rois sortiront de toi. C'est notre appel. Alors on dit, vous voyez, ça nous élargit énormément ça. C'est énorme. Et après, il se révèle, à quel moment ? Pour la première fois dans la Bible, apparaît un certain nom de Dieu qui n'apparaît, enfin, c'est vraiment le début où il apparaît comme ça. C'est le mot « El », lequel de « El » ?« El Elyon », »,« El lequel ?» Celui qui est associé avec la bénédiction, l'abondance, la multiplication et la fécondité. C'est lequel ? Shaddai. Il apparaît avec Abraham, le Shaddai. Et en fait, il apparaît, la première occurrence, c'est Genèse 17, 1, justement. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, le Shaddai. » Le Shaddai. Donc, voyez, cette occurrence, c'est la première fois dans la Bible. Hein. El Shaddai, c'est lié à cette fécondité extraordinaire. Et si on adorait... spécifiquement El Shaddai. Je danse un petit peu une... Si on adorait le Créateur et si on adorait le Shaddai. Parce qu'on devient ce qu'on adore, vous voyez. Il y a une dimension du Shaddai, du Père, qui est à connaître. En tout cas, c'est étonnant parce qu'après, ce Shaddai, il revient avec d'autres personnages de la Bible. Alors après Abraham, on passe, là où le Shaddai apparaît, c'est avec Jacob. Il apparaît avec Jacob. Et après, à votre avis, avec lequel des fils de Jacob réapparaît El Shaddai ? Il y avait 12 fils, hein. Lequel ? Hein ? Qui c'est qui dit ? Joseph, le fils de Rachel. Alors bon, vous connaissez tous, Luc nous a encore reparlé au séminaire. On veut tous Rachel, manque de chance, on a Léa. Ça, il vous l'a dit, redit, redit. On a même ri avec ça en pré-bilan hier, non avant-hier, parce qu'on avait une grande vision en quittant séminaire. Rachel, de nouveau Rachel, toute belle, présentée à nos yeux de prof éblouie, vous savez. dans la semaine, c'était Léa, ça c'est sûr. Bon, les profs, ils savent ce que je veux dire. Et bon, on a pataugé avec Léa au pré-bilan, le bilan, voilà. Mais on a toujours Rachel dans les yeux. Donc, Joseph, c'est un fils de Rachel. Et nous, c'est sûr qu'on est dans Léa. Eh oui, bah oui, bah oui. Mais on doit rester nos yeux fixés sur Rachel. Parce que Jacob, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a travaillé, il a supporté Léa et tout ça. Mais il avait Rachel en vue. Et les fils de Rachel, ça, c'est Joseph et Ephraïm. Pardon, Joseph et Benjamin. Accessoirement, donc Joseph, ça veut dire en hébreu, Dieu ajoute. Ça parle d'abondance. Hein. Et puis, Benjamin, ça veut dire fils de ma droite, ça parle d'autorité, de gouvernement. Et les fils de Joseph, il y a Manassé, on oublie toutes nos souffrances passées. Il y a un temps où on va oublier toutes les galères de toutes les années passées. Et puis, Ephraïm, ça veut dire fécond. Ouais, ça, c'est les fils de Joseph. Manassé, on oublie. Je ferai oublier de souffrances comme l'eau court l'eau coule dans la rivière. Ça, c'est promesse à Job. On oublie tout. Et puis, on est fécond. Ça, c'est l'héritage de Joseph. Et alors, Joseph, j'aurais quand même qu'on vraiment, on le proclame ensemble. Johan, tu peux nous mettre Genèse 49, la bénédiction spécifique de Joseph. Genèse 49. À partir du... C'est la bénédiction de Joseph, hein. Parce que c'est, on parle beaucoup de ce temps, Joseph. On a eu des temps de Léa très, très, très longtemps. Mais il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. On arrive dans un temps Joseph. Alors, Genèse 49, tu peux trouver. À partir de la bénédiction, Joseph 22. Et j'aimerais vraiment qu'on le proclame ensemble, comme si c'était pour nous. Hein. On peut le dire ensemble. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, ses mains ont été fortifiées par les mains du... Oula, je ne sais pas, de Jacob. Il est ainsi devenu le berger d'Israël. Continue, Johan. La suite était encore très intéressante. Tu peux dire la suite ? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aide. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur la sommet du prince, de la tête du prince de ses frères. Et vous remarquez qu'on a, normalement, dans le texte original, vous avez cinq fois le mot bénédiction. Cinq fois. Et cinq, c'est le chiffre de la grâce. Hein. Il y a une plénitude, une abondance. Il faut vraiment, je crois que ces versets, comme a dit Luc, on doit les ruminer, les malaxer, se les approprier, nous dire « je suis un descendant d'Abraham, j'ai droit à la bénédiction de Joseph, je suis une source de bénédiction, je suis moi-même ». Alors, on a un petit signe prophétique au milieu de nous. Béné, tu permets. Hein. Béné, ça s'appelle bénédiction. Hein. Bénédicte, bénédiction. Pour dire que Bénédicte, elle rentre dans quelque chose, une facette de son nom. Elle s'est multipliée. T'es d'accord, hein? Au séminaire, on a imprimé un ouvrage magnifique, 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 qui parle justement de la création. Et elle s'est multipliée au moins 30 fois. Hein, c'est ça, Béné? Au moins 30 fois. C'est-à-dire que son ouvrage a été... Ils se sont arrachés les écoles tellement qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait pas assez. Et 30 fois, ça va bénir les écoles et chaque ouvrage va bénir au moins on ne sait pas combien d'enfants. Donc elle est en train, pour moi c'est vraiment un signe prophétique, je pense que je veux vraiment le dire pour Béné, c'est un signe prophétique au milieu de nous qu'on est dans un temps maintenant de multiplication et de bénédiction. On est chacun de nous une source de bénédiction. Et puis heureusement pour les signes prophétiques au milieu de nous, comme Bénédicte, avec un nom pareil, c'est obligé. Donc elle est en train de se multiplier, mais... Vraiment. Hein. Et puis, je peux vous dire qu'elle est en train d'être féconde. Moi, je le sais parce que la photocopieuse, elle crache avec. Jour et nuit, Elle est féconde. Elle est féconde. C'est Ephraïm, féconde. Donc, c'est un signe. Hein. On est tous appelés à être comme ça, dans nos domaines différents. Et puis, on va prendre... Alors, l'autre bénédiction de Joseph, pour vous dire... Donc, on était à cinq fois le terme bénédiction. C'est par pure grâce. On ne mérite rien, de rien, de rien. Pure grâce. Bénédiction. Genèse 40... Non, Deutéronome... tu prends Deutéronome 33. Johan, s'il te plaît. C'est l'autre bénédiction de Joseph. Hein? Alors, Deutéronome 33, et c'est verset 13. Alors, je ne sais pas quel... Voilà, Deutéronome 33. Alors, on peut le dire tous ensemble aussi. Hein? Sur Joseph, il dit, « Son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée. » Les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques collines, les meilleurs produits des quelque chose éternel. Et dans le texte hébreu, ça j'ai vérifié, vous avez aussi combien de fois meilleur dans le texte hébreu? 5 fois, pareil. En fait, moi, ma traduction, c'est par les largesses du ciel. Par les largesses des produits du soleil, par les largesses de ce qui germe chaque mois, par les prémices des antiques montagnes, par les largesses des collines éternelles, par les largesses de la terre et ce qu'elle renferme. Et dans la traduction des Darby, c'est ce qui est précieux. Donc c'est précieux, meilleur, largesse. 5 fois. C'est la pure grâce. Et c'est notre héritage. Et c'est par la foi qu'on s'empare de cet héritage, comme de tout héritage donné par Dieu. C'est par la foi. C'est pour nous. Et le problème, alors le problème, bien sûr, notre problème, c'est nos coquetiers, là. Le problème, c'est nos concepts qui ont beaucoup de mal à s'accorder avec ça. Alors, on va prendre, au séminaire aussi, Luc nous a dit que sa grande révélation, ça a été que Romains 12, 2, c'était après Romains 12, 1. Qui c'est qui entend, c'est au séminaire, hein? Alors, on va prendre Romains 12, 1 et 2. Ça, alors, Romains 12, 2 et après Romains 12, 1. On ne l'avait jamais vu. Alors, Romains, tu prends, Johan, Romains 12, 1 et 2. Allez, on va les prendre à la suite. Donc, on peut lire ensemble aussi, ça, c'est bien de lire la parole à haute voix. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Bon, vous connaissez ça par cœur. Alors d'abord, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je n'ai jamais compris, moi, pourquoi il fallait offrir nos corps à cause des compassions de Dieu. Je ne voyais pas la logique, le lien, je ne sais pas si parmi vous, vous voyez le lien. Pourquoi c'est à cause des compassions de Dieu que doit offrir son corps? Et pourquoi il y a une relation entre 1 et 2? Alors, bon, je vous donne un petit peu les éclairages que j'ai eus. Offrir nos corps, ça part d'un don de soi total. Hein, un don de soi. Et pourquoi c'est par les compassions de Dieu? Ou par d'autres traductions, par la bonté de Dieu. Alors, bon, je vous expose hein, ce que je pense avoir compris. Tout le monde connaît Jean 3,16. Hein, tout le monde connaît Jean 3,16. Seulement, le problème de Jean 3,16 dans le milieu évangélique, c'est qu'on appuie énormément sur... L'évangile en raccourci, la solution, c'est le sacrifice de Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique afin que qui croit, etc. Maintenant, je vous propose de mettre un rayon laser, comme ça, c'est sur le début. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et là, on a le caractère de Dieu. Dieu est amour. Le Père est amour. Amour, ça veut dire relation. Ça veut dire c'est un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. Ça veut dire qu'il veut nous transmettre un héritage, qu'il veut partager l'héritage avec nous. Il veut vivre avec nous, il veut vivre au milieu de son peuple. C'est un Dieu d'amour et de relation. Dieu a tant aimé le monde. Et la manifestation de cet amour, la conséquence de l'amour, c'est le don. Alors le défi que nous donne Dieu, regardez mes peaux là, il veut qu'on soit comme lui. On est fait à son image. Donc aimer Dieu et les autres, et donner. Donner. Et refléter la bonté de Dieu. Ça, c'est le défi que Dieu donne à son Église. Pendant des années, on a été au bénéfice de la guérison, des soins, des tendres soins de Dieu, comme une nourrice, il a pris soin de nous. Mais il y a un temps, maintenant, où il dit, c'est à vous, donnez, reflétez qui je suis en tant que père, allez-y, donnez. Alors, donc, on est appelé à offrir nos corps vers un don total, parce que Dieu, dans sa bonté, a fait la même chose, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, on est appelé, nous aussi, à aimer et à donner. Et après seulement, il y a la suite. Tu peux remettre Romains 12, 2. Vous avez la suite. En fait, ce renouvellement de l'intelligence, il est possible si on rentre dans cette relation d'amour, dans ce défi d'amour, et si on rentre dans le don de soi. Après, il y a ce « ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors là, bon, là j'ai le grand privilège, n'est-ce pas Clément, de connaître le texte grec. Donc c'est mal traduit évidemment. Donc vous avez conformé, transformé. Donc on dit c'est le même radical. Forme, forme, dans les deux cas. Erreur, grossière erreur. En grec, ce n'est pas ça du tout. Ne vous conformez pas, non, ce n'est pas ça. C'est ne soyez pas les schémas, il y a le mot schéma, schématizo en grec. Ne soyez pas schématisés, on va dire. Hein, ne prenez pas les schémas. Et les schémas, ça parle de quelque chose de sec, de rigide, de stéréotypé, de réducteur. Donc, soit on se stéréotype, on se rigidifie, on devient tout, ouais, tout raide. Ça, c'est les outres durcis, vous savez, tout durci. Et on se, pas au siècle présent, c'est pas le monde, là. On parle pas du monde, on parle de l'ambiance du siècle, de la mentalité du siècle. Donc, soit on est rigidifié, stéréotypé et par le siècle présent, des outres toutes sèches, toutes rigides, vous savez, façonnées par les médias, façonnées par la culture, façonnées par notre héritage de parents, enfin, voilà, façonnées, rigides. L'alternative, c'est être, alors là, en grec, c'est métamorphosé. Métamorphosé. C'est-à-dire qu'il y a un changement de forme. Et là, mes amis, je crois qu'on est en plein dedans. Alors là, c'est, alors je ne sais pas si je peux dire que je suis Issachar, en tant qu'Issachar, discernement des temps, tout ça, mais on est en plein dans le changement de forme. En plein. Et le changement de forme, c'est très, très, très inconfortable. C'est un peu comme le vase, vous savez, vous êtes sur le tour, ça tourne à toute allure. Vous dites, j'ai perdu tous mes repères. C'est normal, ça tourne. Ça tourne. Ou alors, peut-être que d'autres sont dans la fournaise, vous savez, comme les beaux vases en verre. Pion, fournaise, là, très, très, très chaude. Et puis, il y a une forme qui est donnée, on ne sait pas laquelle, on ne voit rien, nous, on est dans la fournaise. Ou alors, dans l'eau froide, quand il passe dans l'eau froide, vous savez, pion, on ne voit rien, c'est l'eau froide, c'est pas très agréable. Enfin, on est en pleine métamorphose, là. Renouvellement d'intelligence, vous soyez métamorphosé, changement de forme, mais on ne sait pas encore laquelle on va avoir, on ne sait pas qu'on va ressembler à ça. Sur le coup, on ne voit pas grand-chose, nous. Hein. C'est les autres qui nous disent, ah ben, tu es transformé. Ah ben oui, mais moi, je ne sens rien, je ne vois rien. Normal, vous êtes dans la fournaise, vous êtes dans le lot, vous êtes sur le tour en train de tourner à toute allure, vous perdez tous vos repères, vous ne savez plus où vous en êtes, mais vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors là, ça, c'est important. Dans le mot renouvellement, il y a le mot kainos, des pensées nouvelles. Renouveler, et l'intelligence, c'est tout notre système de pensée, c'est nos concepts. Alors, comment c'est renouvelé ? Eh bien, c'est tout simple, alignement sur la pensée de Dieu. Quand Dieu dit abondance, largesse, multiplication, tu es une vigne féconde, tu vas irriguer les nations, tout ça, on s'aligne, mais moi, je trouve que je suis un rameau tout rien comme ça. Non, tu t'alignes. Tu discutes pas, tu t'alignes, tu es fécond, tu es appelé à t'élargir, tu es une source de bénédiction. Alors là, je vais faire du Narnia. Narnia. Est-ce que vous avez, personne n'a un problème existentiel avec Narnia, c'est bon, il n'y a pas d'irréductible anti. Voilà. Alors je prends un couple basique. Ah, par exemple, Isabelle, parce qu'Isabelle, elle aime bien Narnia, hein, c'est ça? Alors, Isabelle et Patrick, couple basique. Allez voir comme ça. On dit, c'est, voilà, monsieur travaille à l'ADF, madame a une petite entreprise, voilà, ils ont 4 enfants, voilà, petite vie tranquille, quoi, enfin, a priori. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, parce que les gens ne savent pas en les voyant, mais nous, on sait un peu, ils sont une armoire magique. Bon, on va dire, Patrick n'a pas une taille d'armoire à glace, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais ils sont comme une armoire magique. C'est-à-dire que, peut-être qu'ils ne le savent pas, un peu, ils aident les gens à rentrer dans autre chose, le royaume de Narnia, le royaume des cieux, vous savez. Et les gens, s'ils ont un cœur d'enfant, comme la petite Lucie, ils verront bien que ce n'est pas des gens comme les autres. Alors ils s'approchent d'eux, ils vont voir et dites, vous nous aidez à entrer dans Narnia. L'armoire magique s'ouvre, bien sûr, ça s'ouvre. Hein. On rentre, oh, le royaume des cieux, oh, c'est autre chose. Oh, il y a la guérison là, ah, puis il y a la joie. Ah oui, et puis il y a la paix aussi. Et puis il y a un fabuleux cœur de père. Patrick, c'est père, alors, il rentre dans Narnia. Oh là là, fabuleux. Et chacun de nous, attendez, je vais faire un exemple comme ça, mais chacun de nous, on est une armoire magique. Vous savez ça ? Seulement, on ne le sait pas. Ou alors, on ferme la porte parce que, ben non, 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 moi, je suis une armoire normale. Non, vous êtes une armoire magique. Par vous, Jésus est en vous. Jésus a dit, vous entrerez, vous sortirez, vous trouverez des pâturages. Jésus, en vous, attire les gens, leur fait trouver des pâturages, ils entrent, ils sortent de l'armoire magique. On est tous des armoires magiques. Bon, autre exemple. Narnia 3, passeur d'aurore. Au début, tout le monde sait, il y a ce fameux cadre. Vous savez, dans la chambre. Le cadre, tout le monde sait, hein ? Le cadre. Et puis, à un moment donné, l'eau, elle commence... Vous savez bien, elle commence à bouger, il se passe des choses. Eh bien, c'est un peu nous, ça. Je ne parle pas au niveau de l'eau et du bateau. Mais le Seigneur a dit, si quelqu'un croit en moi, des fleuves, en grec, c'est potamoï, c'est des gros fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous me regardez, je vous regarde... Où ça, les fleuves d'eau vive, c'est où la source? Ben non, justement, on est comme le cadre. On est comme le cadre, c'est-à-dire qu'on voit que de nous que le petit cadre, là. Voilà, Marc, c'est un cadre. Tchouk. Mais il est greffé au royaume des cieux, donc il est greffé à des cataractes d'eau vive qui n'attendent que le moment de se déverser à travers lui. Ça change tout, hein? Ouais. Est-ce qu'on le croit? Dieu a dit, si quelqu'un croit en moi... C'est ça le problème. Si quelqu'un croit en moi, élargissons-nous. On est, alors là, vous voyez, c'est le fleuve d'eau vive, oui, c'est une autre dimension. Vous voyez, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, on a vécu des prémices de ça, les marches. Hein, marche avec Vito, on a tout un groupe, là, on y est allé. On a prophétisé la parole, on a fait déverser l'eau vive spirituelle, hein, de la parole. Depuis, à Toulon, ils se plaignent qu'ils ont trop de pluie. Et puis, le couloir rhodanien, maintenant, il y a des écoles qui se lèvent, ça pousse comme des champignons, c'est normal, on a mis plein d'eau vive. Alors forcément, après, ça pousse, les semences, elles poussent. Et d'ailleurs, je lance un défi, il faut vraiment qu'on aille dans l'ouest de la France, il y a ces déserts, il faut vraiment qu'on aille irriguer. Hein. Nous sommes des cataractes d'eau vive, là, il y en a plein. Autre exemple, à Strasbourg, on est allé en équipe, 15. Alors là, à Strasbourg, on avait l'eau vive, et puis pas que l'eau vive. Alors, là-dedans, le Seigneur, à volonté, il peut faire couler plein de choses. Hein. Alors, soit l'eau vive, bon, c'est le plus évident, hein, l'eau vive, mais pas que ça. Pas que ça. Alors, on peut faire couler aussi. On peut faire couler de la super bonne huile. Vous savez, de l'huile de très grande qualité. Elle est super, celle-là. Je ne peux pas vous la donner parce que c'est à mon mari, et puis je l'ai prise sans autorisation. Bon, donc c'est très 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 bonne huile, très bonne huile. Donc le Seigneur veut nous remplir individuellement et collectivement de cette bonne huile pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse rafraîchir, pour qu'on puisse adoucir tout ce qui est à vivre dans les vies, voyez. Toujours individuellement et collectivement. Hein. Donc ça, les profs, nous on connaît, hein. L'huile parfois il en faut pour les vies d'élèves. Et je crois vraiment... Ça a été prophétisé, je rappelle simplement ce qui a été dit. A été dit, je crois qu'il y a un temps viendra, on ira faire nos petites courses à Leclerc, Super U, vous voyez. Et puis, on sentira la compassion de Dieu pour des gens, c'est déjà arrivé hein, ponctuellement. Et puis on y va et on déverse l'huile, ou on déverse les fleuves d'eau vive. Ou, voyez, mais si on sait qui on est ce cadre avec plein d'eau derrière, on est cette armoire magique où les gens peuvent entrer et trouver autre chose. Si on le sait, eh ben, on va pratiquer en conséquence. Donc le Seigneur veut nous remplir de son huile pour que ça, on puisse à notre tour irriguer beaucoup, beaucoup de vie autour de nous. Et puis bien sûr, comme on est en Alsace, il veut aussi nous remplir de... Bah oui, bah oui. Bah oui. Bon, à Strasbourg, on y est allé très doucement. On s'est dit, il ne faut pas les brutaliser, les Strasbourgeois. On a donné beaucoup d'eau et de l'huile. Hein. En gros, c'était ça, eau et huile. Le crément, on y est allé très doucement. Non, pratiquement pas, parce qu'on a eu peur de... Voilà. Avec ma Christine, un tout petit peu vers la fin, on a osé, mais ce n'était pas trop, parce qu'on s'est dit, il faut y aller doucement quand même. Mais c'est le vin, la France est le pays de la vin, c'est la joie de l'éternel. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont spirituels, ils ne sont pas trop joyeux. Il y a des églises, je pense, dans l'Est, ils pensent que plus on est sérieux et mieux c'est pour le Seigneur. C'est là que le Seigneur dit à l'intérieur, oh là, qu'est-ce que je m'ennuie là-dedans. Parce que le Seigneur est un Dieu de joie. Donc nous, les Français, c'est obligé, On ne sait pas encore, mais on va déverser la joie dans la, sur la planète entière, obligé. Alors là, bon, ça c'est un vin sans bulle, hein, c'est du Sylvaner, c'est sans bulle. Il y a encore mieux, à mon avis, il y a encore mieux, hein, c'est le crément. Voilà. Là, je vais faire un... je crois qu'après, c'est fini. Je crois, on va faire un, je vais faire un petit acte prophétique, vous permettez. Un petit acte... Non, non, pas le boire. Et j'ai pas dit d'où il venait ce crément. Surprise. Parce que on est appelé donc non seulement à irriguer les autres régions, les autres pays avec notre vin, j'aurais pu dire les parfums aussi, hein. On est appelé à envahir la planète du parfum de Christ, du parfum d'adoration, du parfum de nos chants. Bon, tout ça, on est appelé à le faire. Mais on est appelé aussi, encore mieux, non seulement bénir les autres régions ou les autres pays, mais les aider à rentrer dans leur appel. Vous voyez ce que je veux dire ? Que Strasbourg rentre dans son appel de grande capitale européenne de la réforme. Hein ? Nous, on a un cœur de serviteur, on est appelé à aider les autres à rentrer dans leur appel, dans leur destinée. Alors, vous savez d'où il vient ce crément ? Enfin, c'est un peu un bulle. Il vient, c'est pour l'anniversaire de Bénédicte. Bénédicte, bien, c'est pour toi. Je le donne ? C'est du Vouvray, il vient du 37. Alors, on va dire prophétiquement, si vous êtes d'accord, qu'on va bénir la région de Touraine et que la Touraine va rentrer dans son appel de région qui va bénir le monde entier avec son Vouvray, mais ce Vouvray spirituel. Les puits anciens, les puits de Noirmoutier, les puits de Saint-Martin-de-Tours qui soient débouchés, que cette région rentre vraiment dans son appel. C'est une très belle région dans le naturel, qu'elle devienne aussi très belle dans le spirituel. Hein. Donc voilà, c'est pour ton anniversaire, Béné. Hein, c'est... voilà, tu pourras venir le prendre. Donc je reviens, soyez transformés. Donc ça vaut le coup. Franchement, le Seigneur vous dit, nous encourage tous, ça vaut le coup de se laisser malaxer, modeler, fournaise, eau, etc., etc. Ça vaut le coup de plus savoir où on en est et de nous aligner avec ce que Dieu dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Alors ce qui est bon, il y a un mot, il y a quelqu'un parmi nous qui est appelé de ce, qui a ce nom-là, je ne dis pas qui, mais bon. Quelque chose qui a rapport aussi avec la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu de bonté. Et il veut un peuple qui manifeste sa bonté. Agréable et parfait. Alors parfait, ça fait parler, c'est téléion en grec. Quelque chose qui est abouti, qui est mûr, qui est accompli. Et ailleurs, dans Matthieu 5, Jésus nous dit, soyez les fils de votre Père, afin que vous soyez parfaits. Il n'a pas dit qu'on serait parfait dans l'au-delà, hein. On soit fils de notre Père. Et là, il y a des leçons un peu difficiles à apprendre. Comment on est fils de notre Père ? Comment on est parfait ? Si vous reprenez Matthieu 5, on va peut-être pas le reprendre, mais oula, le temps passe. Il y a quelque chose dans Matthieu 5 qui nous dit « Aimez vos ennemis. » Ah, ça va avec. Bah oui, ça va avec. Ça va avec. Priez pour ceux qui vous persécutent, etc. L'amour des ennemis, c'est la marque du fils qui est comme le Père. Ouh, là, c'est dur. Ça, c'est dur. Aimez ceux qui ne pensent pas comme vous. Aimez ceux qui vous persécutent. Et puis, ça dit aussi, soyez bons. Dieu est bon, il fait pleuvoir, il fait mettre son soleil sur les bons comme les méchants. On a un Dieu immense, généreux, bon, et on est appelé à être comme lui. Alors, je nous lance un défi. Récemment, avec les élèves, là, on a vu un personnage extraordinaire de l'histoire de France qui avait un roi qui faisait plein de bêtises, qui a édicté des lois aussi pires que celles qu'on est en train de proclamer, hein. C'est-à-dire aussi pire, non, c'est pas beau, c'est pas français, excuse-moi. aussi mauvaise, excuse-moi Isabelle, pardon. aussi mauvaise, c'était pour vous faire réagir, voilà. Pour voir si vous suiviez, c'est bon ? J'ai rattrapé le coup, c'est bon ? aussi mauvaise que celle qu'on est en train de promulguer. Je parlais de Louis XIV, bien sûr. Mais il a, donc ce prophète, ce père en France, a vraiment un cœur de père, il a dit ces quatre vérités à Louis XIV, mais dans l'amour, avec un cœur passionné d'amour pour le même Louis XIV. Et je crois que Dieu nous lance un défi à nous, Église de France. Est-ce qu'on va aimer nos autorités dans l'état où elles sont, l'état pitoyable où elles sont ? Est-ce qu'on va les aimer avec un cœur de père ou on va se tenir à l'écart, comme Jonas, en jugeant, en critiquant et en condamnant ? Là, il y a un test. Est-ce qu'on sera fils du père ou on sera juste des gens religieux, quoi, hein ? Il y a un test. Et je me le dis à moi aussi. Hein. Est-ce qu'on va avoir ce cœur d'amour ? L'autorité, elle n'est donnée que dans l'amour. C'est l'amour qui nous donne l'autorité. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'autorité. Alors, on va le voir rapidement. Ésaïe 22, on va finir avec ça. Ésaïe 22, il y a un texte très fort. Il a été prophétisé sur l'église, cette église-là, par Fabienne Ponce. Ésaïe 22. Alors, c'est à partir... Tu prends Ésaïe 22. On oppose deux sortes de personnages, deux sortes d'autorité. Alors, il y a Shabna et il y a Eliakim. Ésaïe 22, tu l'as ? Alors, Ésaïe 22... Tu l'as ? Non, il n'y a pas. Donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va-t-on trouver ce Shebna ? Shebna, il l'appelle, c'est un courtisan, mais c'est quelqu'un d'utile, nécessaire. Ce n'est pas un cœur de père, Shebna. C'est la personne qui se pense utile, le mercenaire, quoi. Il se pense utile, il se pense nécessaire. Qu'est-ce que tu as à toi ici ? Qui as-tu pour toi ici que tu creuses un sépulcre ? On se creuse un sépulcre, un lieu de mort, donc. Hein. On se taille une demeure dans le roc. Voici que l'Éternel te jette. Et il met quelqu'un d'autre à la place, Eliakim, et il nous le dit à nous. Hein. Quelles sont les caractéristiques d'Eliakim, le bon serviteur ? Il dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Il sera un père. Donc Dieu demande à ceux à qui il veut donner son gouvernement, son autorité, d'avoir un cœur de père. Pour les habitants de Jérusalem, dimension d'une ville. Un cœur, pas seulement pour l'Église, mais un cœur pour une ville. Pour la maison de Juda, un cœur pour une nation, un cœur pour des nations, le cœur d'Abraham, vous voyez ? Donc, je revêtirai de ta tunique, je scindrai de ton écharpe. Et là, l'écharpe, c'est un mot très précis en hébreu qui n'est valable que pour les sacrificateurs. C'est un cœur de sacrificateur. Cœur de père, cœur de sacrificateur. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, ça, c'est un cœur d'adorateur. Adorateur, sacrificateur et cœur de père. C'est uniquement à ce genre d'église que Dieu va donner son autorité. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr, il sera siège de gloire pour sa famille. Et comme a dit Fabienne Ponce, Dieu cherche en France des églises, des individus et des églises qui ont ce cœur-là. Cœur de père, cœur de sacrificateur, ça veut dire donner. Un père, il donne. Dieu a tant aimé, le père a tant aimé le monde qu'il a donné. Abraham a touché le cœur du père parce qu'il a donné Isaac. Le père, c'est celui qui donne, c'est celui qui aime même ses ennemis, c'est celui qui est bon pour tous, les bons et les méchants. C'est quelque chose d'énorme. Et on va devenir comme le Père si on adore le Père, si on adore le Shaddai, si on adore le Créateur, et si on se voit nous-mêmes comme des instruments de multiplication. On va peut-être finir comme ça. Seigneur, tu as une destinée pour cette Église. Pour chacun de nous, tu as une destinée. Et Saint-Esprit vient mettre en nous ce désir que nous, collectivement, individuellement, on rentre dans cette destinée. On ne veut pas passer à côté parce qu'on aurait des conceptions trop, trop étroites, trop limitées. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui est étroit en nous, tout ce qui empêche qui tu es de se manifester. On veut être ces armoires magiques, on veut être ces fleuves d'eau vive qui, partout où on va, ça déborde de tous les côtés. On veut être ça, Seigneur. Alors, vraiment, débarrasse-nous de nous-mêmes, de nos concepts étroits, qu'on accepte de s'aligner sur ce que tu dis. Oui, nous porterons des fruits, même si on doit être émondé et émondé et émondé. On va porter beaucoup de fruits. On va être en bénédiction à beaucoup de nations. On va aider des nations et des régions à rentrer dans leur destinée de nations et de régions. On veut être ce que tu veux. On ne veut pas t'auto-limiter, te limiter par nos pensées trop étroites. Pardon pour la culpabilité, pour la honte de soi, pour les expériences passées qui nous ont rigidifiés. Viens enlever tout ce qui est rigide et nous, stéréotypé, tout ça, viens l'enlever. Et que nous soyons très souples et que nous acceptions de nous laisser élargir et recevoir pleinement la bénédiction de Joseph en nous, Seigneur. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît, au milieu de nous tous. Amen.